Vous écoutez
RMC.
8h passées de 1 minute, vous êtes sur RMC. Très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Cette affaire glaçante ce matin d'un ancien enseignant piégé sur Internet en train de faire des avances sexuelles à ce qu'il pensait être une adolescente de 14 ans. Il est en garde à vue depuis 2 jours et vous allez entendre le témoignage RMC d'une ancienne élève. Puisque le professeur avait déjà fait l'objet d'un signalement par le passé. On va vous raconter déjà l'image du jour, celle de Donald Trump et de Xi Jinping cette nuit en Chine. On assiste en ce moment même à un sommet entre les deux grandes puissances. Et puis l'annonce du jour, ce sera ce soir, 20h. On vivra ça sur RMC, la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde de football.
Et cela fait donc 2 jours qu'un ancien professeur de sport est en garde à vue à Vesoul après être tombé dans un piège sur Internet.
Oui, un homme de 66 ans, ancien directeur du sport scolaire de Haute-Saône, qui s'est présenté de lui-même à la police d'ailleurs après avoir fait des avances sexuelles à une adolescente de 14 ans sur Internet. Alors l'adolescente était en fait un piège, elle n'existait pas, elle était générée par intelligence artificielle, piloté par un influenceur se présentant comme un chasseur de pédocriminels en ligne. La séquence a été diffusée sur Internet. Et alors depuis, Constance Bostoen, vous avez recueilli le témoignage RMC d'une ancienne élève de cet homme qui avait déjà fait parler de lui.
En 2013, Maëlys n'a que 12 ans quand elle rencontre le sexagénaire dans le cadre de l'Union Nationale du Sport Scolaire. Très vite, il l'ajoute sur les réseaux sociaux.
Il a commencé à m'envoyer des messages. Au tout début, c'était assez bienveillant et c'est devenu un petit peu trop bienveillant. Et on a divagué sur du « Est-ce que tu dors toute seule ? Est-ce que tes parents vérifient ta chambre ?» Après, il m'a dit « C'est vrai que je t'apprécie beaucoup, t'es vraiment jolie. »
Les échanges se poursuivent pendant plus de 6 mois et selon elle, le professeur de PS en profite.
Je me souviens d'une rencontre UNSS, donc c'est sur de l'athlétisme, c'était à Vesoul, où là, il était venu me voir, il m'avait pris à partie, il m'avait dit, voilà, maintenant, faut que tu me fasses un bisou pour me dire bonjour, mais attention, faut que personne ne nous voit. Après, je me souviens qu'il me prenait énormément en photo.
Elle finit par se confier à ses parents, qui la conduisent immédiatement déposer une main courante. Lundi, soit 13 ans plus tard, Maëlys tombe sur une vidéo de l'homme en train de faire des avances à ce qu'il pense être une adolescente de 14 ans. Il est en fait piégé en direct par un streamer.
Et j'ai la haine parce que j'étais une enfant, j'y ai pensé beaucoup, mais je veux surtout prendre la parole pour toutes les petites jeunes qui n'osent pas parler.
Maëlys pense désormais déposer plainte.
Autre affaire à Lille où un babysitter de 37 ans vient d'être mis en examen pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur 18 enfants, des enfants qu'il gardait, alors que cet homme avait déjà été condamné il y a 6 ans à Nice à une peine de 5 ans de prison pour agression sexuelle sur un enfant de 2 ans et qu'il avait l'interdiction d'exercer un métier en contact avec des mineurs. On reparle ce matin de la mort du militant d'extrême droite Quentin Derenck en février dernier à Lyon. Enfin, c'est surtout l'insoumis Jean-Luc Mélenchon qu'on a reparlé hier soir lors de son nouveau rendez-vous médiatique qui est diffusé en ligne. Il a fait applaudir à cette occasion le député Raphaël Arnaud, dont des proches sont impliqués dans l'affaire. Et il a dit aussi que la séquence avait permis à LFI, de gagner, selon Jean-Luc Mélenchon, 3 à 4 000 adhérents. Les patrons. On vient de les entendre d'ailleurs, le MEDEF sur RMC ce matin, sont en colère. On est au lendemain de l'annonce de la hausse du SMIC de 2,4% au 1er juin. C'est un effet mécanique qui est lié à l'inflation, ça c'est ce que dit Bercy. Et ce qui met en colère les patrons en fait, c'est que pour faire des économies, le gouvernement envisage de geler les allègements de charges pour les entreprises. Toujours est-il que 2,4%, ça fait concrètement 34 euros net de plus en moyenne à la fin du mois pour les salaires les plus bas, Vincent Chevalier à Lyon pour RMC.
Peu importe le montant, une augmentation du SMIC est toujours une bonne nouvelle pour Aïcha.
Mieux que rien, mais ça va, on peut faire quelque chose à 45 euros.
Environ 45 euros brut, soit 34 euros net par mois, vraiment pas de quoi être satisfait selon Raphaël et Dany.
Je sais pas ce qu'on va pouvoir s'acheter en plus, c'est pas assez.
Tout est bon à prendre, mais on donne là, on prend ailleurs, c'est triste. Pour l'inflation qu'il y a derrière, quoi. Le prix d'énergie et tout ça, non, c'est une miette.
Ça n'a pas changé notre vie en tout
c'est
cas.
Une miette.
Mais cette hausse du SMIC s'accompagnerait d'un surcoût de plus d'1,5 milliard d'euros pour l'État à travers les allègements de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises sur les bas salaires. Le gouvernement envisage donc de les geler.
Je pense que le gouvernement joue avec le feu.
Comme Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité, les syndicats patronaux sont en colère.
C'est un coût du travail encore plus élevé pour les entreprises et donc tout ça, ben c'est mécanique. Si les entreprises elles défaillent et qu'elles s'en sortent pas, elles licencient, elles ne recrutent pas.
Cette mesure d'économie budgétaire n'est pas encore actée, mais selon les informations de RMC, une décision devrait être prise assez rapidement.
La question est très simple. 34 euros net pour les salariés au SMIC. Bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des plus précaires. Coup dur pour la trésorerie des patrons. Vous témoignez au 32-16 ce matin.
Alors pendant ce temps, on assiste en direct à la visite de Donald Trump en Chine. Elle est presque historique puisque ça faisait 9 ans que ce n'était pas arrivé. Le tapis rouge a été déployé. Et Donald Trump a pris la parole dès le tout début de ce sommet entre les deux grandes puissances.
Nous allons avoir un avenir fantastique ensemble. J'ai beaucoup de respect pour la Chine. Vous êtes un grand leader. Je le dis à tout le monde, vous êtes un grand leader.
Bon, Lucas Laubert pour RMC, on a très bien compris cette nuit, dès le début de la visite, que Donald Trump était en opération séduction.
Oui, le président américain change radicalement de ton par rapport à son premier mandat parce qu'il sait qu'il a besoin de la Chine. D'abord pour le dossier iranien, pour tenter de rouvrir le détroit d'Hormuz. Une intervention diplomatique de Pékin, alliée de l'Iran, pourrait l'aider à parvenir à un accord avec Téhéran. Donald Trump vient aussi pour conclure des accords commerciaux. À ses côtés, en Chine, de nombreux chefs d'entreprise américains. Il espère infléchir la guerre commerciale, obtenir l'ouverture du marché chinois et la confirmation d'une commande massive d'appareils auprès de Boeing. Des accords qu'il voudra revendiquer comme des victoires, mais en face, Xi Jinping, en position de force, veut obtenir en contrepartie des inflexions de Donald Trump, en particulier sur Taïwan, île toujours revendiquée par la Chine. Ce matin, le président chinois met la pression. Si la question est maltraitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit.
Bon, le ton est d'ores et déjà donné et Donald Trump accueillera, vous savez bien, dans moins d'un mois, avec le Canada et le Mexique, bien sûr, la Coupe du Monde de football. Et c'est un peu aujourd'hui que cette aventure va commencer, puisque c'est ce soir, aux 20h de TF1, que Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs qui vont s'envoler pour ce mondial, Fabrice Hawkins.
Pas de révolution dans le groupe que va amener Didier Deschamps à la Coupe du Monde, mais des incertitudes. La première concerne le troisième gardien. Qui pour accompagner Mike Maignan et Brice Samba? Le Parisien Lucas Chevalier a perdu l'avance qu'il avait au fil de la saison. Remplaçant au Paris Saint-Germain, il n'est plus sûr de faire le voyage aux États-Unis. Alphonse Areola lui a participé au Mondial 2022, mais joue peu à West Ham. Enfin, Robin Risser pourrait créer la surprise, mais le Lensois n'a jamais été appelé. Il connaît peu le groupe, ce qui pourrait être rédhibitoire. Au poste de milieu de terrain, Adrien Rabiot, Manu Koné ou Aurélien Tchouaméni sont sûrs d'être dans la liste, contrairement à Eduardo Camavinga, pour qui le doute subsiste. Ses performances sont assez décevantes. En attaque, il faudra surveiller la situation de Randal Kolo Muani. Son rendement a été très faible avec Tottenham cette saison. Un seul but seulement en championnat, mais il garde la confiance du sélectionneur Didier Deschamps. Okay.
Alors l'annonce de la liste, ce sera en direct ce soir à 20h sur RMC, radio officielle de ce mondial, qui sera d'ailleurs le témoin du changement climatique, écrivent ce matin les scientifiques dans un vaste rapport là qui vient d'être publié. Ils alertent sur les conditions météo extrêmes pour un quart des matchs en termes de chaleur et d'humidité. 5 matchs ont même été désignés comme étant dangereux. Tiens, et puis je vous signale que ce matin, le Paris Saint-Germain est champion de France de football. 14e Ligue 1 remportée par le PSG. Bon, c'est officiel, hein, c'est une formalité, mais c'est officiel depuis hier soir, et la victoire du Paris Saint-Germain 2-0 à Lens.
Je prends vos félicitations quelque part.
Oui, je sens que ça. En revanche, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas quand, où et comment Paris va soulever ce trophée.
Oui, oui, ouais. Parce que le dernier match est prévu chez le
voisin du PFC,
le nouveau
rival,
si on peut dire, le PFC, le Paris Football Club, qui eux-mêmes devaient fêter leur fin de saison. Mmh. Bon, c'est le bazar.
Ouais, tous chez Mathieu Béliard. Ce soir.
Il faut peut-être réserver. Je suis pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde. Merci beaucoup. Et puis c'est loin, hein. Fin de la route. Vous savez, Victor, il y a un peu de route. Merci beaucoup, Quentin Vidal. C'était le journal. Vous restez bien sur RMC. On va parler d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. La taxe sur les petits colis. Alors, on apprenait dans les journaux d'RMC que Minelli va fermer. Le vendeur de maroquinerie de chaussures. La taxe sur les petits colis rapporte beaucoup moins que prévu.
Oui, alors le principe de cette taxe petits colis imposée par la France, bah c'était justement d'essayer d'enrayer le déferlement de marchandises ultra low cost importées d'autres pays que ceux de l'Union européenne. Le but, c'était effectivement de viser des plateformes chinoises hein, comme Temu, Shein ou AliExpress, notamment pour essayer de défendre une forme de production européenne ou nationale en termes de vêtements, notamment. Cette taxe de 2 euros par catégorie d'articles sur les colis de moins de 150 euros, elle était censée rapporter près de 35 à 40 millions d'euros par mois à partir de mars 2026. Les premiers résultats sont pour le moins décourageants, puisque les premières évaluations font état de recettes de 2,3 millions d'euros seulement selon les douanes.
Par mois ?
Par mois.
Pour quelle
Donc ça a été 10 fois moins que ce qu'on attendait.
Infime. Pour quelle raison les rentrées fiscales ne sont-elles pas au rendez-vous, Emmanuel ?
Alors, si seulement, c'est parce que d'un seul coup, les Français avaient pris conscience que finalement, il fallait acheter français et qu'ils avaient décidé de renoncer à aller s'approvisionner sur les plateformes. Bon, on se dirait, quelque part, cette taxe, elle a atteint son but. Mais malheureusement, la principale explication, ça n'est pas ça, c'est que les grandes plateformes chinoises visées envoient désormais leurs colis dans d'autres pays européens, comme la Belgique et les Pays-Bas. Puis ces colis sont acheminés tranquillement en France par la route. Résultat, 90% du trafic aérien a été perdu pour les aéroports français. On est passé de 500 000 à 50 000 déclarations par jour. Donc si on fait le bilan, ça rapporte rien. Ça a détruit de l'activité dans nos aéroports, dans nos centres logistiques. Alors, certes, on nous dit que c'est une situation transitoire en attendant la taxe européenne. Et là, effectivement, si vous allez vous implanter en Belgique ou aux Pays-Bas, ça changera pas grand-chose. Sauf que ce qu'on voit, c'est que les plateformes chinoises sont déjà en train de s'adapter. Elles sont en train de s'européaniser avec des entrepôts qu'elles sont en train d'installer un peu partout. Donc, elles vont effectivement venir investir en Europe et créer de l'emploi en Europe. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais elles vont rester les championnes incontestées du commerce en ligne.
Alors, les prix du jour, on surveille avec vous tous les jours les prix des énergies, Emmanuel ?
Eh ben, c'est plutôt calme ces derniers jours. Le gazole, on est toujours autour de 2,15 € le litre. C'est stable. C'est quand même en baisse par rapport à il y a une semaine. Le sans-plomb 95, on est toujours sur ce plateau très élevé au-dessus de 2 euros, 2,03 € le litre. Le pétrole, toujours sous tension, hein, 106 $ le baril. Et le gaz est stable. Lui à 46 € le mégawattheure.
Pétrole qui s'est tranquillement installé au-dessus des 100 $.
Oui, alors il y a eu quelques.
Pas sur les pics d'il y a quelques jours.
Non, alors il y a quelques jours, on était plutôt dans la fourchette 90-100.
Ouais,
là, on s'est plutôt installé dans la fourchette.
Oui,
mais on est plutôt là dans la fourchette 100-110 maintenant.
Et vous le sentez évidemment, ça pèse sur votre pouvoir d'achat, sur l'achat de petits colis venus de Chine. Enfin, on pourrait presque faire le lien. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Arnaud Demange qui débarque pour nous faire rire. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, c'est le géopolitologue Frédéric Cancel qui publie « La guerre mondiale n'aura pas lieu » chez Odile Jacob. Et juste après, face à Conteloup, en direct, à 8h50. Oui, en direct, on est en direct ce matin. Il n'y a pas de jour férié sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours Demange.
Et oui, c'est tous les jours lui. Et bonjour, Arnaud Demange, bonjour.
Bonjour les amis.
Salut
bonjour
Arnaud.
Tout le monde, ça va bien ?
Ça va pas mal.
On n'est pas bien là, tranquille, un jour férié à travailler pendant que les autres se font chier à la maison. Quand même, quoi. On est mi-mai, le Festival de Cannes a commencé. Ouais. Roland-Garros, c'est dans une semaine, ouais. C'est le pont de l'Ascension. Et vous savez ce que ça veut dire, tout ça ? Ça veut dire qu'on est dans la période, on n'a plus envie de bosser en attendant les vacances. Eh bien, ça y est, joyeux presque en vacances, Mathieu. Joyeux presque en vacances, Élise.
Moi, j'y suis déjà.
C'est formidable. Alors, je me suis renseigné, c'est une tradition exclusivement française.
Ah, n'est-ce pas ?
Oui, j'en ai parlé avec une copine allemande qui m'a dit « Mais vous êtes toujours en congé. Nous, le 8 mai, on bosse. Voilà, on aime le travail. » Non, vous n'aimez pas le travail. Vous avez perdu la guerre. C'est très différent. Vous avez tous été des nazis. Et ben maintenant, vous êtes punis. Voilà. Allez, l'actualité, c'est bien sûr le hantavirus. Alors, le patron de l'OMS s'est voulu rassurant. Je l'ai écouté, il a déclaré « Le risque est faible ». Bah évidemment, vous savez qui c'est le patron de l'OMS ? Ouais. C'est Tedros Adhanom Ghebreyesus, c'est l'ancien ministre de la Santé éthiopien. Alors oui, j'imagine que pour lui ça va, quand dans ton pays t'as Ebola, la famine, le chikungunya, la fièvre jaune et la malaria, un virus qui fait trois morts sur un paquebot rempli de vieux, bah ça fait une semaine assez calme. Oui, je me doute que vous savez qui c'est, évidemment. Alors, on le sait, le virus se transmet par les souris. Vous voyez que c'est très important ça, parce que Gabriel Matzneff a même refusé de coucher avec un petit rat de l'opéra, de peur d'être contaminé. Tout le monde flippe, tout le monde. Alors, les enfants, si vous nous écoutez, c'est pas le moment de perdre une dent. La petite souris a l'air vénère. C'est un peu comme si Mickey avait la rage. Vous voyez, que vous alliez à Disney et qu'ils vous disent « Oh, salut, c'est Mickey !» Je vais te défoncer! Qu'est-ce que tu fous sur mon terre-terre, petit narvalo? Oh! C'est que je suis un malade, moi je vais te maraver! Mais Ratatou, il vient, on le termine à deux!
Oh! Oui. Moi de Mickey, c'est vraiment
ça! Ben oui, mais oh.
Donald Trump est en visite officielle en Chine.
Oui, alors on est en direct sur BFM TV pour suivre cette visite avec notre envoyé spécial à Pékin, Ulysse Grossier. Ulysse, vous nous entendez? Elle marche pas, cette oreillette de merde. Ulysse Grossier. Ulysse Grossier, vous êtes là? Ouais, ma couille. Vous êtes à l'antenne, Ulysse Grossier. Ouais, je sais, commence pas à me péter les noyaux. Sinon, je te laisse en plan avec ton duplex de naze, là, puis je vais bouffer. Putain, nom de là. Vous êtes trop grossier, Ulysse. Alors, la rencontre entre Trump et Xi Jinping. Bon, le nouache, il est allé serrer la pogne au blaireau de la Maison Blanche. Il va le retourner comme une crêpe, hein. Puis Trump Pounet, il va repartir avec une main devant, une main derrière. À poil. Voilà, ça lui rappellera les soirées Epstein à cette tête de nœud. Bon, bah, merci Ulysse Grossier. Y a pas de quoi, ma couille. Désolé. Ulysse Grossier.
Alors, le petit Robert a présenté les nouveaux mots de son édition 2027.
Oui, alors, il y a fast fashion, crush, narcomicide. Chaque année, en fait, ils en ajoutent pour... Voilà, tous les phénomènes de société qui apparaissent. Chaque année, ils font ça. C'est-à-dire qu'en 2095, leur dictionnaire, il va finir par dépasser les 95 kilos. Ou alors, il faut enlever des mots au fur et à mesure. Je crois, des mots propres qui servent à rien, comme croissance, emploi, François Bayrou, etc. En tout cas, c'est l'occasion. Allez, c'est l'ascension, on se détend. Petit quiz.
Ah oui,
ce mot est rentré dans le dictionnaire. Attention. Manosphère.
Oui.
Oh, oui. Il désigne les gens qui sont bourrés au mariage et qui chantent dans la vallée. C'est la manosphère. Bon, en vrai, c'est la communauté des masculinistes. Dictionnaire, oui. Dinguerie, qui est un mot utilisé pour décrire la candidature de François Hollande en 2016. Incel, qui désigne un homme qui n'a jamais couché avec une femme et qui, du coup, utilise tout son temps libre pour expliquer sur Internet comment on couche avec une femme.
Oui.
Il y est, ouais.
Bien cette définition. Oui.
Se faire matrixer.
Non. Oui.
Si, il est rentré. Ça veut dire se faire conditionner. Ça vient du film Matrix, évidemment. Se faire tuchcatriser.
Non.
Se faire arnaquer de 20 balles. Ça vient du film Les Tuches 4. Se faire maman, j'ai raté l'avionisée.
Non.
Dire,
non.
Se faire abandonner par ses parents. Charo.
Oui.
Qui désigne un incel qui a réussi. Pour ceux qui sont familiers avec les Pokémon, c'est l'évolution de l'incel. Donc, c'est les nouveaux donjons.
Ah ouais.
Ou Aurel Gage.
Elle suit, elle est abonnée au podcast d'Arnaud Demange.
Aquafaba.
Quoi?
Alors, ouais, Aquafaba, qui désigne une eau de cuisson des légumineuses à la texture gélatineuse après réduction. Oui, évidemment, puisque c'est un mot que seul Mathieu Béliard utilise.
Clairement.
À cause de vous, il est rentré là-dedans. Il a harcelé les rédacteurs du Petit Larousse en leur disant et moi, à chaque fois que je cuisine un velouté de lentilles déstructurées avec réduction tellurique et tension chlorophyllienne, comment vous voulez que je désigne l'eau de cuisson à la texture gélatineuse qui est après la réduction des légumineuses? Et voilà, c'est vrai qu'il fallait un mot pour l'avoir. Et ben, vous l'avez eu, Mathieu.
Aquafaba, c'est pas mal.
Bravo, Aquafaba. Ouais. Et à demain.
Ah, quelle chute. Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours en podcast. Et en tournée, Montpellier, Gaillac, Lille, Toulouse, Biarritz, Dijon, Creutzwald. Et ce soir, à Paris, au solo. Pas en solo.
Mais
l'erreur la dernière
deux.
Fois. Voilà, vous êtes deux. C'est un spectacle RMC, bien entendu. Pierre est en ligne avec nous à Ajaccio, en Corse du Sud. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour.
Comment ça va, Pierre?
Ça va très bien, on travaille.
Vous êtes boulanger, vous avez une petite entreprise et vous avez réagi à la question des salaires. 34 euros net pour les salariés au SMIC, je ne sais pas combien sont payés vos salariés. Est-ce que vous pouvez assumer cette hausse du salaire?
En fait, c'est bien simple. Voilà. On va assumer, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Sauf que, 34 euros pour les SMICards, moi, j'en ai pas. OK? Donc, ça leur fera sûrement un peu moins sorti. Le fait est, c'est que c'est pour l'entreprise que ça va poser un problème. Maintenant, le gouvernement, d'après ce que j'ai entendu sur votre antenne, a besoin de 6 milliards. Il cherche 6 milliards, donc on va aller les chercher sur les entreprises et on va supprimer certains...
On n'a pas de allègements de charges. En fait, il faut juste que je le redise d'un mot pour nos auditeurs qui nous auraient rejoints. Sur certains salaires, bas salaires, il y a des allègements de charges. Ce sont des aides de l'État pour maintenir l'emploi. La réalité, c'est que si on augmente ce SMIC, on augmente proportionnellement les charges qui vont avec, et donc l'allègement de charges, ce qui fait qu'il pourrait y avoir un manque à gagner d'1,5 à 2 milliards d'euros pour l'État, qui pourrait donc geler ces allègements de charges, voire en supprimer certains.
Voilà. Donc c'est bien simple. C'est toujours les entreprises qui vont payer. Moi, je vais vous dire franchement, mes employés, j'essaie de les payer le mieux que je peux. Et quand je les paye plus, je suis content. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on arrive à un moment où la conjoncture ne suit pas. Pour augmenter les salaires, faut qu'on travaille. Et qu'on travaille un peu plus. Parce que si on travaille comme l'année dernière, les salaires, excusez-moi, mais c'est comptable. Au gouvernement, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas s'ils savent compter, mais c'est comptable. Si on ne gagne pas, si on n'a pas plus en bénéfice, on ne peut pas augmenter de salaire.
C'est un peu ce que disait Charles Nathy, le porte-parole du MEDEF, qui était en ligne avec nous à 7h40 tout à l'heure. C'est que le maître mot derrière tout ça, c'est la croissance. S'il n'y a pas de croissance, on ne va pas tenir sur ces augmentations. Vous continuez à réagir sur cette question. Merci Pierre Boulanger, en Corse, ce matin, en direct avec nous. Merci beaucoup. Vous venez réagir à ce que vient de dire Pierre, que vous soyez salarié ou patron, on vous attend au 32-16. Il est 8h23 pour, dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV avec Frédéric Ancel qui publie La guerre mondiale n'aura pas lieu aux éditions Odile Jacob. Il répond aux questions de Marie Chantrelle. Merci d'écouter RMC, 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Rachel Sadodine.
Des nouvelles rassurantes au sujet de l'antivirus. Aucun des 26 Français cas contact ne présente de symptômes. 4 enfants ont été testés négatifs. Les résultats des tests des adultes devraient être connus dans la journée. Pour le moment, ils restent à l'isolement. C'est un honneur d'être à vos côtés. La déclaration d'amour de Donald Trump à Xi Jinping ce matin, en visite à Pékin sur fond de négociations de paix avec l'Iran notamment. Eh bien, le président américain affirme que les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleur que jamais. Et son homologue de renchérir, nos pays doivent être partenaires, pas rivaux. Une seule ombre au tableau, une tout de même, la question de Taïwan. Xi Jinping est clair, les États-Unis et la Chine pourraient entrer en conflit si Washington gérait mal la question. Nicolas Sarkozy risque de retourner en prison. 7 ans d'emprisonnement, voilà ce qu'a requis le parquet général hier au procès en appel du financement libyen présumé de la campagne de 2007, avec aussi 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. La cour doit rendre sa décision le 30 novembre prochain. Madonna, Shakira, le groupe de K-pop coréen BTS, ils seront tous à l'affiche du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de football 2026 aux États-Unis. Les organisateurs l'ont annoncé ce matin. Et puis la météo, une journée très perturbée, agitée, avec au programme des giboulées sur quasiment tout le pays. De nombreux nuages, des éclaircies très rares. Et puis il neigera même en montagne à partir de 1300 mètres. Un petit peu plus de soleil près de la Méditerranée, mais il y aura du vent, notamment de la Côte d'Azur à la Corse. Et puis les températures, elles sont toujours très très fraîches, entre 2 et 15 degrés.
Merci Rachel Sadodine, c'était le rappel des titres. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantrelle reçoit Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po. Il a publié « La guerre mondiale n'aura pas lieu » chez Odile Jacob. C'est dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie Chantrelle.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ancel. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Docteur en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient, professeur à sciences politiques. Et votre dernier ouvrage, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. On va espérer peut-être avec vous ce matin aux éditions Odile Jacob. Je le disais, l'image de la nuit, Donald Trump, Xi Jinping, côte à côte, faste chinois, visite d'État à Pékin, reçu en majesté le président américain. Dans ce type de visite, on le sait, il y a la forme, il y a le fond. On va s'attacher ensemble aux deux ce matin. Mais d'abord, ces échanges d'amabilité. Donald Trump qui prédit un avenir fabuleux entre les États-Unis et la Chine. Frédéric Ancel, est-ce que c'est du grand théâtre ou ça peut aboutir à quelque chose?
Ah, moi, je pense qu'il est assez sincère. D'abord parce que Trump aime beaucoup le faste, effectivement. Mmh. Il aime beaucoup le protocole, surtout lorsque on lui en fait et on lui en donne beaucoup, et c'est le cas. Les Chinois savent recevoir, surtout ils savent recevoir des gens puissants. Donc là, on est, si vous voulez, sur un rapport de force bien compris. Bien sûr que on fonctionne à la manière d'une pièce de théâtre, mais sur le fond, il est extrêmement important de comprendre que Trump, un, aime les pouvoirs forts, et le pouvoir chinois, le Parti communiste chinois, le moins qu'on puisse dire, est qu'il est fort, et même tout à fait dictatorial d'ailleurs. Il aime les hommes d'État forts. Xi Jinping démontre que c'est un véritable stratège. Ça, c'est incontestable. Et puis, trois, il a énormément de choses à demander, notamment sur le plan économique. Je donne simplement un chiffre. Chaque année, vous avez un peu plus de 700 milliards de dollars de volume d'échange entre les deux premières puissances économiques du monde. Or, là-dessus, les États-Unis sont déficitaires de manière écrasante. Et ça, Trump, il ne le tolère pas.
Oui, avec des échanges d'amabilité, on le disait, comme j'en ai peu connu, sa rencontre avec Xi. Vous parliez du faste auquel le président Trump est sensible. Là, encore une fois, le sous-texte, c'est quoi? Cette rencontre peut aboutir peut-être dans sa guerre face à l'Iran à quelque chose à laquelle il n'arrive pas à aboutir aujourd'hui, parce qu'on a quand même un président en difficulté aujourd'hui, un président américain qui apparaît fragilisé.
Alors, je vais vous surprendre, moi je pense que ce qui l'intéresse avec la Chine, c'est pas tellement l'Iran, parce que au fond, la Chine, contrairement à ce que disent beaucoup d'observateurs, me semble-t-il beaucoup trop pressés ou trop paresseux, la Chine n'intervient pas directement au Moyen-Orient. Elle ne le veut pas ou elle ne le peut pas, notamment sur le plan militaire. Ça fait des années qu'on nous dit, ce qui est vrai d'ailleurs.
Elle ne le veut pas ou elle ne peut pas, pardonnez-moi, c'est très important. Elle ne le veut pas.
Elle ne le veut pas parce qu'elle ne pourrait pas défier sérieusement sur le plan militaire les États-Unis et notamment au Moyen-Orient. Or, ces dernières années, on nous a beaucoup dit que les Chinois ouvraient des bases. Alors, c'est vrai qu'ils ont une base aujourd'hui à Djibouti, c'est pas une base très très importante. Bon, et que la flotte notamment de combat chinoise est devenue la première au monde numériquement parlant. Oui, enfin moi ce que je constate, c'est qu'au Moyen-Orient pour l'instant, la jugulaire pétrolière, elle est tenue par les États-Unis et les Chinois n'interviennent pas. Moi, je pense que c'est surtout sur le plan économique que le président Trump veut obtenir des choses, hein, je le disais il y a un instant. Ce qui le passionne, c'est l'économie, c'est le mercantilisme absolu, c'est pas tellement les questions politiques et militaires.
L'art de faire du deal, encore une fois, le business maker qu'est Donald Trump, on y revient.
Exactement, et sachant, encore une fois, j'insiste, c'est très important, que la Chine dispose face aux États-Unis aujourd'hui d'une une balance commerciale, en quelque sorte, qui est extrêmement bénéficiaire au détriment des États-Unis. Et ça, ça gêne beaucoup plus considérablement Trump que les questions proche-orientales, y compris l'Iran.
Mais c'est un point sur lequel vous me surprenez ce matin, Frédéric Ancel, parce que les liens entre Pékin et Téhéran sont établis, documentés. Moi, je pensais véritablement qu'il pensait aujourd'hui que Pékin, Xi Jinping, puisse influencer la position iranienne. Selon vous, il n'en est rien.
À la marge.
À la marge.
Je vais vous dire pourquoi à la marge. Alors, il est vrai que la Chine importe la quasi-totalité du pétrole iranien aujourd'hui.
Autrement dit, 80%. Hein.
Alors, c'est ça. Et
aujourd'hui, c'est gigantesque.
C'est gigantesque. Et aujourd'hui, l'Iran est une économie, ce qu'on appelle mono-exportatrice. Autrement dit, plus de 90% des exportations iraniennes se situent dans un seul secteur, c'est évidemment celui du pétrole. Seulement, voilà, les Chinois sont, si vous voulez, c'est « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Parce que les Chinois, aujourd'hui, ont un besoin cruel de ce pétrole. Je rappelle que au Venezuela, qui est l'une des deux, la deuxième jugulaire en quelque sorte principale pétrolière de la Chine, aujourd'hui, elle est tenue aussi cette jugulaire par les États-Unis. Autrement dit, la Chine pourrait influer notamment sur le plan nucléaire, le régime islamique au pouvoir à Téhéran, mais à la fin des fins, je le répète, les Chinois, sur le plan militaire, n'interviennent pratiquement pas du tout. Alors, ils ont donné un certain nombre de renseignements et ils vendent des composants. Franchement, c'est pas fondamental. Donc, encore une fois, je pense que c'est davantage sur le plan économique général que Trump joue quelque chose d'important. J'ajoute un point fondamental. Dans quelques mois, ça vous aura pas échappé, il y a les midterms. Les Américains votent, comme d'ailleurs la plupart des peuples, votent en fonction de leur quotidien et certainement pas en fonction des questions internationales.
Ce qui fait dire aussi à certains experts, notamment américains, encore une fois, là je cite un responsable qui était très proche de la candidate démocrate, qu'il arrive fragilisé. Je le disais encore une fois, Donald Trump avec de mauvaises perspectives, des tensions dans son pays en interne, de très mauvais sondages. Cette visite d'ailleurs, c'est important de le noter, qui a été reportée en raison de ce conflit en Iran qui devait avoir lieu initialement au mois de mars dernier. Il n'apparaît pas aujourd'hui à vos yeux fragilisé. Il reste un interlocuteur de poids aux yeux du président chinois. C'est un interlocuteur incontournable.
Oui, mais j'en suis d'autant plus convaincu que M. Trump respecte très aléatoirement la démocratie. Qui vous dit d'abord que en novembre prochain, les Républicains perdront réellement? Vous savez qu'il y a un découpage électoral qui vient d'être effectué au profit des Républicains. Il n'est pas certain qu'ils perdront, d'une part. D'autre part,
aujourd'hui, les perspectives ne sont pas en sa faveur.
Pour l'instant, elles ne sont pas en sa faveur.
Et son parti, les Républicains.
Pour l'instant. Mais qui vous dit par ailleurs que M. Trump respecterait le résultat du scrutin? Je permets quand même de vous rappeler, mais ça vous aura pas échappé, qu'il y a quelques années de cela, il a été accusé par la justice américaine et évidemment par de nombreux observateurs et citoyens américains d'avoir perpétré littéralement un coup d'État. Autrement dit, et dernier point, les prérogatives présidentielles qui sont très importantes en matière de défense et d'affaires étrangères aux États-Unis, un peu comme en France d'ailleurs, de toute façon, après les midterms, elles resteront aux mains de Trump. Or, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est d'abord sa propre carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas et balayer d'un revers de main.
Sauf qu'il a besoin, Frédéric Ancel, je me permets de vous couper, il a besoin du Congrès si, et on va y venir, si il voulait poursuivre ce conflit, si le cessez-le-feu s'arrêtait, il aurait besoin de l'approbation du Congrès pour continuer, poursuivre l'effort de guerre.
Oui, alors ça, c'est en temps de guerre officielle. Il a proclamé la guerre, il me semble pas.
Non, il n'a consulté visiblement pas grand monde.
Et vous voyez, le problème est toujours le même, c'est que vous avez une zone grise interprétative, y compris sur le plan institutionnel, en matière politique et militaire, de la part d'un président américain, lui joue à fond cette zone grise interprétative-là, et il considère qu'il n'est pas en guerre. Autrement dit, il peut pour l'instant, et regardez à quel point il le fait, négliger, voire mépriser la représentation nationale.
Si on revient à cette visite d'État à Pékin, en Chine, vous disiez, il y a à ce même micro un mois, que les Chinois n'interviennent pas sur le plan militaire, hors de leurs frontières, la Chine face aux États-Unis, disiez-vous, serait ridiculisée. Qu'est-ce qui se joue précisément, quand même, vis-à-vis de l'Iran dans cette visite? Vous dites à quel point aujourd'hui l'Iran est interdépendant du pétrole iranien, ça c'est une réalité. Je poursuis ma question parce qu'on apprend, selon aussi nos confrères du New York Times, que, via des montages, la Chine vendrait des armes aujourd'hui aux Iraniens. Ça peut un peu contrarier le président américain. Est-ce que ça peut être l'objet de discussion, de mise au point?
Alors la Chine vend des composants, pas exactement des armes. Il faut pas imaginer des cargos chinois transportant des chasseurs-bombardiers ou des navires flambant neufs sortis des usines chinoises arrivés en Iran.
Du point de vue américain,
ça n'existe pas.
Le résultat est différent.
Oui, il est très différent parce que les composants qui servent à un certain nombre de missiles, de toute façon, les Iraniens aujourd'hui, pour l'essentiel, sont capables de les produire. Par ailleurs, vous avez aussi des composants russes, des composants nord-coréens dans les armes iraniennes. Et je vais vous dire mieux. Aujourd'hui, il y a une interaction et une interdépendance technique très forte de manière mondialisée en quelque sorte dans les armements. Moi je reviens sur le nucléaire. Et là où je vous rejoins sur votre question, c'est que les Chinois sont ces dernières années extrêmement conservateurs, voire ultra-conservateurs sur les questions nucléaires. Regardez à quel point ils empêchent littéralement monsieur Poutine, depuis son invasion de l'Ukraine, d'agiter, de brandir, comme il le fait d'ailleurs, il a essayé de le faire à plusieurs reprises, l'épée de Damoclès nucléaire. La Chine ne veut pas entendre parler de la remise en cause du traité de non-prolifération de 68.
D'abord, ça pas touche selon eux. Quand vous dites conservateur, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme-là?
Qui refuse catégoriquement la remise en cause de ce traité de non-prolifération, qui à ce jour n'a jamais été transgressé officiellement, mais qui le serait par l'Iran, si l'Iran allait à la bombe. Et de ce point de vue-là, on a effectivement quand même quelque chose de possible de la part du président américain en termes d'exigence. Et je pense que Pékin accepterait sans doute de discuter davantage d'ailleurs sur ce dossier-là que sur d'autres dossiers. Je rappelle juste d'un mot que la Chine a toujours voté au Conseil de sécurité les sanctions contre l'Iran qu'on présente comme allié, à tort d'ailleurs, de Pékin, sur le dossier nucléaire.
Oui, absolument. Xi Jinping qui aussi, on parlait de la forme, ça c'est le fast. Le fond, il y a aussi des discussions, il y a eu ce 2h15 de tête-à-tête, je crois. Et Xi Jinping qui prévient quand même Donald Trump que la Chine pourrait entrer en conflit avec les États-Unis. Alors le mot conflit est à mettre en grand guillemets. Si Washington gérait mal la question de Taïwan, conflit est à mettre entre grands guillemets parce que on est en mandarin et il ne faut peut-être pas comprendre conflit militaire. Mais ce qui se joue entre les deux hommes, c'est ça aussi, la question de Taïwan. Très technique, mais on le sait, Washington est un soutien aujourd'hui de Taïwan. Les fournit en armes aussi, à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Là encore, c'est un des leviers sur lesquels les deux peuvent jouer?
C'est le levier principal pour Xi Jinping. Je vais vous dire, Xi Jinping, la nature du régime au pouvoir à Téhéran, il s'en contrefiche. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir continuer à importer du pétrole, de préférence pas trop cher. Mais Taïwan, évidemment, pour la Chine continentale, pour le Parti communiste chinois au pouvoir à Pékin, c'est évidemment une question identitaire absolument fondamentale. Et c'est là-dessus que Xi Jinping va exiger un certain nombre de garanties américaines et peut-être même une forme de neutralité américaine au cas où, même si pour l'instant je n'y crois pas, au cas où les Chinois décideraient d'intervenir de manière plus forte que seulement sur le plan rhétorique et diplomatique un jour sur cette île.
J'aimerais qu'on vienne maintenant aux dernières déclarations du président américain également. Il juge cessez-le-feu avec l'Iran sous assistance respiratoire. Vous, Frédéric Ancel, spécialiste de ces relations au Moyen-Orient, est-ce que vous voyez, lisez pas dans une boule de cristal, mais au retour des États-Unis, de Donald Trump, après cette visite d'État, cette volonté de réappuyer sur le bouton, l'opération Massue, il y a là déjà un nom, pourrait-elle reprendre dans les jours qui viennent ?
Oui, c'est parfaitement possible. D'abord parce que M. Trump est tout à fait imprévisible, d'une part. D'autre part, il n'organise pas totalement son imprévisibilité. Autrement dit, une partie de ses variables de prise de décision relève du n'importe quoi. Enfin, sur le plan strictement militaire, les États-Unis ont la capacité de frapper avec encore beaucoup plus de force et d'efficacité l'Iran. Ça ne veut pas dire que le régime chuterait, mais ça veut dire que l'Iran serait littéralement et totalement étranglé en termes d'exportation du pétrole, y compris vers la Chine, si le président américain en donnait l'ordre. Donc je vous dis pas que c'est probable, je vous dis que c'est possible s'il n'y a aucune espèce d'avancée dans les négociations.
Avec aussi une image qui nous a frappé ce matin, la diplomatie, vous savez, par le sport, ça existe, une forme de soft power. Cette équipe iranienne, j'aimerais qu'on s'y arrête avec vous, en partance pour les États-Unis, pour la Coupe du Monde de football. Là aussi, évidemment, la FIFA souhaite que cette équipe puisse participer, cette équipe d'Iran. Ça dirait quoi quand même, l'équipe iranienne sur le sol des États-Unis ?
Ça dirait du symbole et non pas de la réalité. Je suis extrêmement méfiant sur les questions du soft power.
Vous n'y croyez pas ?
Non, ce n'est pas le soft power qui fait les relations internationales. C'est le hard power. Et on le voit tous les jours. En revanche, le soft power permet parfois de faire passer la pilule, hein, d'une projection de force, une projection d'influence par exemple. Et par ailleurs, deuxième point, moi je suis très favorable à séparer les questions géopolitiques des questions culturelles et sportives. Et je ne vois pas très bien au nom de quoi on boycotterait l'équipe d'Iran ou d'autres équipes d'ailleurs. Je pense qu'il faut réellement séparer le sportif et le culturel d'une part, le géopolitique d'autre part. Mais ça relèverait du symbole. Je rappelle quand même que
du symbole et dont l'Iran s'est aisément servi ces dernières heures, grande image de propagande, cette équipe soutenue par un peuple tout à son équipe, évidemment. Oui. Ça aussi, ça fait partie de la fantasmagorique aussi, et de l'image et du symbole.
Oui, mais de la propagande, évidemment, d'un régime qui, par ailleurs, est un régime à la fois dictatorial et parfaitement assassin. Bon, mais ça, si vous voulez, chacun joue ça. J'allais dire, chacun joue sa propagande. La propagande, c'est aussi ancien que la guerre. En fait, c'est consubstantiel à la guerre. Donc, que l'Iran souhaite envoyer son équipe, oui, ça, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et que les Américains l'acceptent, c'est encore mieux. On reste dans le symbole. Je veux dire par là, je dis d'un mot, que pendant un match qui opposerait l'équipe d'Iran à l'équipe des États-Unis ou à d'autres équipes, on peut très bien imaginer des bombes s'abattant sur l'Iran ou des missiles s'abattant sur des bases américaines dans la région.
Parce que vous nous disiez il y a quelques instants, Frédéric Ancel, que face à l'imprévisibilité du président Trump, cette opération massue, selon vous, pourrait intervenir dans les prochains jours. Ça peut intervenir, alors qu'on le sait aussi dans le même temps que l'Iran conserve une capacité en missile. Là aussi, c'est documenté. On a des mots très forts du président américain qui dit que les capacités militaires sont totalement détruites. Vraisemblablement, il n'en est rien. Et l'Iran, c'est parti. Particulièrement préparé à ce conflit et résiste bien mieux que prévu.
Vous avez raison, et c'est dur pour l'économie mondiale. Ce n'est pas dur, contrairement à ce qui est dit là aussi, c'est une idée reçue, pour l'économie américaine. Ce que les Américains dépensent d'un côté en armement et en usage de bombes et de munitions, en fait, ils le récupèrent de l'autre côté, puisque je rappelle à vos auditeurs et à vos téléspectateurs, mais ils le savent très bien, que les États-Unis, c'est aujourd'hui de loin la première puissance mondiale exportatrice d'hydrocarbures. Mmh. Donc pour les États-Unis et pour Donald Trump en particulier, au fond, cette guerre pour l'instant n'est pas si coûteuse que cela.
Pas si coûteuse, mais a-t-il ou ont-ils sous-estimé les capacités aujourd'hui de l'Iran ? Quand on voit les chiffres, l'Iran a rétabli un accès opérationnel à 30 de ses 33 sites de missiles le long du détroit d'Ormuz. Ça, c'est documenté notamment par la presse américaine qui se base sur de renseignements très précis. Ça, c'est la réalité du terrain également.
Je pense que les États-Unis, alors peut-être pas l'état-major, mais à la présidence, ça c'est sûr, parce qu'il y a une manifeste incompétence diplomatique et militaire, je le disais tout à l'heure. C'est une évidence, c'est chez Trump d'ailleurs, ça l'intéresse pas, hein, ces questions-là. Il y a eu sans doute une mésestimation des capacités de nuisance de l'Iran. Je dis bien des capacités de nuisance de l'Iran. L'Iran peut, et notamment ce régime, peut rester au pouvoir et continuer à provoquer des dégâts. Il ne peut pas gagner la guerre.
Est-ce que pendant ce temps-là, le détroit d'Ormuz, blocus contre blocus, cette initiative française, Frédéric Ancel, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Emmanuel Macron veut reprendre la main avec un Charles de Gaulle, notre porte-avions français en partance vers ce détroit au large des côtes. Est-ce que pour vous, on est là aussi dans de la posture ou cela peut aboutir à quelque chose de concret sur le plan militaire?
C'est une posture fondamentalement importante. Pourquoi? Parce que...
Importante derrière, et nécessaire, indispensable.
Et nécessaire et indispensable pour une puissance qui se veut responsable, qui est dotée encore d'un siège permanent au Conseil de sécurité, qui est dotée de la bombe, qui est la première puissance militaire, et d'assez loin d'ailleurs, de l'Union européenne, et qui, derrière, alors loin derrière, je vous l'accorde, mais derrière les États-Unis, est la seule puissance au monde, vous m'entendez bien, à aujourd'hui pouvoir envoyer, projeter un groupe aéronaval dans la région. Donc tout cela est très important, et je conclue d'un mot, vous avez employé le mot indispensable, oui, vis-à-vis de nos alliés. Pour rassurer nos alliés, et on en a des militaires dans la région, évidemment les Émirats Arabes Unis, je note aussi d'ailleurs la Jordanie, et nos alliés contemporains, et peut-être nos alliés potentiel des États qui seraient intéressés dans les prochaines années par la France au regard de la crédibilité que nous aurions projetée au cours de cette crise.
Donc, indispensable selon vous, ce n'est pas uniquement de la posture et le chef de l'État aujourd'hui est dans son rôle en annonçant cette initiative, peut-être à l'ONU aussi, une initiative qui pourrait être portée dans les prochains jours.
Absolument, démonstration de force vaut force, surtout lorsque vous êtes une véritable puissance.
Frédéric Ancel, votre regard important ce matin, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, votre dernier livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons politiques d'espérer. Merci beaucoup aux éditions Edith Jacob. Il est 8h presque 47 et vous êtes bien sûr RMC BFM TV.
Merci Marie Chantrey, c'était le face-à-face sur RMC. Vous restez avec nous dans quelques toutes petites secondes. C'est Nicolas Canteloup pour Face à Canteloup, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Frédéric Ancel était l'invité du face-à-face ce matin. Et Dominique de Villepin souhaitait réagir.
Bonjour Monsieur Béliard.
Bonjour.
Après Frédéric Ancel, me voilà moi, en poivre et sel. Oui, un peu d'humour, vous l'avez compris, je suis de bonne humeur. Monsieur Ancel, au-delà de son enthousiasme, a une vision, pardonnez-moi, trop pessimiste de la période. Certes, il y a des guerres, certes, il y a une crise politique, certes, il y a une menace de pandémie. Oui, je suis en forme. Mais ne voyons pas tout en noir. La vie nous réserve aussi de belles surprises. Regardez, Nicolas Sarkozy va retourner en prison pour 7 ans. C'est inespéré. Dans ton cul, la bombe.
Merci, monsieur Villepin. Alors, tout de suite, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui, oh pardon. Allô
Stéphane, vous m'entendez?
C'est qui, l'homme qui parle?
Stéphane, c'est à vous.
Ah oui, pardon, mon Dieu. Non, parce que je vous explique. Quand je couvre le concours de l'Eurovision qui a lieu samedi en Autriche, à Vienne, j'ai pris quelques précautions avec mes boules quies. Du coup, je vous parle aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis tellement excité. Vous savez que j'adore le sport. J'adore le sport, oui. Le polo, le cricket, le bridge, bon bref. Et c'est aujourd'hui que Didier Deschamps doit annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Oui. Et en tout cas, aujourd'hui, en ce jour de l'Ascension, chez RMC, on fait jouer les remplaçants. Oui. Mathieu Béliard et Marie Chantrey. Attention, vous emballez pas. Même si vous êtes très bon, ça ne veut pas dire que vous serez titulaire demain. Hein, jeudi de l'Ascension, c'est comme un match amical, il n'y a pas d'enjeu. C'est pour ça que vous êtes là. Oh, la cote de M. Villard. Allez, c'est parti pour les titres. Les organisateurs du Festival de Cannes ont déclaré ne pas avoir mis en place de protocole sanitaire face à l'antivirus. En même temps, c'est vrai qu'à Cannes, avec tout ce qu'ils te mettent dans le net, je ne vois pas comment le virus aurait la place d'y rentrer. Alors que Nicolas Sarkozy, vous le savez, avait été condamné en première instance à 5 ans de prison, le parquet en appel vient de requérir non plus 5 ans mais 7 ans de prison contre lui. Eh bien voilà, lui qui disait préférer le septennat au quinquennat, il est bien parti.
Merci Stéphane. Alors selon Paris Match, l'actrice iranienne Golshifteh Farahani serait à l'origine de la gifle de Brigitte à Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le Président. Vous confirmez avoir eu des échanges avec l'actrice franco-iranienne?
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle.
Alors, on parle d'une relation uniquement platonique?
Elle court la maladie d'amour.
Répondre en chantant. Votre épouse Brigitte a démenti ces informations. J'imagine que vous en avez parlé ensemble. Que lui avez-vous dit?
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier.
Ouais, ouais, vous confirmez. En fait.
Mais non, mais n'est rien du tout, cher Mathieu Béliard. C'est les bêtises de la presse people, vous connaissez, ça fait vendre. Pardon, mais avoir des maîtresses, c'est quelque chose dont on ne peut pas me soupçonner. Hein. C'est un truc de président de gauche. Voilà. Et pour que ce soit clair, une bonne fois pour toutes, dans l'avion... Il n'y a rien eu. Hein, c'était pas une gifle. C'est Brigitte aime juste chahuter, voilà. Et je chante ce refrain qui me plaît. Elle me tape. C'est sa façon de m'aimer.
Merci, Monsieur le Président.
Vous en prie.
Donald Trump est en Chine. Il rencontrera Xi Jinping. On va essayer de comprendre les enjeux de ce sommet avec le plus fin connaisseur de la Chine en France, Jean-Pierre Raffarin.
Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin. FFIRIED. Écoutez, Donald Trump est le président Xi Jinping, c'est une rencontre qui fait plaisir. C'est un beau roman d'amitié qui commence entre les deux. Magique adolescence où tout est un jeu. Vous voyez que le président Macron n'a pas le monopole du champ juste.
La paix en Iran, est-ce qu'elle dépend de cette rencontre?
Écoutez, les deux dirigeants, à l'évidence, souhaitent la paix. Et la paix, vous le savez, c'est la volonté, Stéphane Bureau, nous en parlions tout à l'heure. La paix, c'est la volonté d'avancer ensemble, l'un vers l'autre, en direction de la marche arrière du conflit qui les oppose, et de faire un grand pas en avant sur les rails de la réconciliation pour déployer les ailes du navire mondial sur le chemin pentu de l'harmonie universelle.
Merci, monsieur Raffarin. Nicolas Sarkozy nous a rejoint dans le procès du financement présumé libyen de sa campagne de 2012. L'avocat général a requis 7 ans de prison.
Quelle indignité, Mme Pujadas. Une réquisition de 7 ans de prison contre moi? Vous croyez qu'il n'y a pas mieux à faire comme réquisition? On est en pleine épidémie? Et pas plutôt des masques à réquisitionner? Hein, des soignants réquisitionnés? Des blouses blanches à réquisitionner? Mais ne vous inquiétez pas, M. Béliard. J'assume responsabilité. J'irai en prison. Mais la tête haute.
Vous avez peur de l'épidémie, d'un futur confinement?
Non, écoutez, être à l'isolement, j'ai déjà fait ça pendant 21 jours. C'est juste que si on est en cas contact, on est mis en quarantaine 45 jours. Et pour tout vous dire, les 45 jours, ça ne m'arrange pas. Non, parce que 45 jours, pour écrire un livre... C'est un peu long. Et pour en écrire deux, c'est un peu court. Après, ça dépend si c'est 45 jours ferme ou avec sursis. Si c'est une quarantaine qui peut être aménagée avec un bracelet électronique. Si on peut se faire peut-être une auto-attestation de sortie de prison. Mais bon, je vous rassure. J'ai fait un test PCR. Ah. Je me suis auto-testé tout seul dans ma narine que j'ai. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, ma narine? Et ça, c'est imparable. Que j'étais négatif à la culpabilité. Mais je le savais, j'avais aucun symptôme. Je marchais la tête haute. Mais oui, la tête haute, parce que sinon, quand on marche la tête basse, il y a le nez qui coule. Donc, c'est QFD.
Et pour finir, il y a Alain Marchal qui nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules.
Eh oui, bonjour Mathieu. Aujourd'hui, dans les GG, nous reviendrons bien sûr sur les mesures sanitaires contre l'antivirus et nous poserons la question. 45 jours de quarantaine, n'est-ce pas un peu trop long? Nous en parlerons donc avec André, qui connaît bien le sujet de l'isolement, puisqu'il vit non pas depuis 45 jours, mais depuis 45 ans dans la Creuse. Et en entendant son témoignage, vous comprendrez qu'il ne va pas beaucoup mieux. Nous parlerons également des très attendues aides gouvernementales sur les carburants. Nous serons en ligne avec Raymond, patron d'une petite entreprise de transport au bord de la faillite, qui attend ses aides avec espoir pour pouvoir enfin acheter quelques litres d'essence afin de s'immoler avec ses derniers chauffeurs et son camion. Enfin, face à la crise pétrolière qui dure, faut-il rendre les transports gratuits? C'est une vraie question que nous poserons dans le GG. Nous aurons le témoignage de Chantal qui a trouvé l'astuce pour utiliser gratuitement les transports en commun. Elle ne prend que des ascenseurs, ce qui lui procure de vraies économies. C'est une vraie astuce, même si elle regrette que le nombre de destinations soit un peu limité. Voilà, vous l'aurez compris, comme chaque matin, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci Nicolas. Nicolas, quand on passe à Cantelou, on retrouve demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, le vrai, mon cher Alain?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous reviendrons sur ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il craint un second tour présidentiel Mélenchon-Marine Le Pen. Est-ce que c'est, ou Bardella, est-ce que c'est le meilleur ou le pire des scénarios? Et puis, on reviendra sur cet internaute aussi qui a piégé un pédophile présumé avec une fausse vidéo. Alors, justice expéditive ou au contraire, on lui dit bravo? Vous venez en discuter avec nous au 32-16.